Maurice Renard, l'homme qui voulait être invisible. Naturellement, dit M. Barbington. C'est pas à Yipping que ces choses sont arrivées. Hopkins le regarda d'un air effaré. Eh bien, quoi? Reprit l'oncle. Je veux dire, depuis le temps que je viens ici, je suppose qu'on m'aurait parlé de tout cela, si tout cela s'était passé. Hopkins restait bouche bée, écarquillant les yeux. M. Barbington se balançait dans un rocking chair. C'était un court bonhomme, replet, vêtu de noir. Il avait des joues roses et arrondies, un front merveilleusement développé, et ses cheveux blancs recouvraient en désordre le col de sa redingote. Une grosse petite vieille dame, habillée en homme, voilà bien de quoi ressemblait M. Barbington. Et à vrai dire, quand le docteur Hopkins contemplait son oncle, il éprouvait parfois la sensation troublante d'avoir devant lui feu sa mère, née Perpington, étrangement ressuscitée et travestie. Je pense donc, reprit M. Perpington, que Wells a voulu donner le change à son lecteur en situant à Pimping et dans ses environs les principales aventures de l'homme invisible. Mais, dit enfin Hopkins, vous ne voulez pas prétendre que ces aventures soient jamais déroulées vraiment quelque part? Le Barbington lui jeta de côté un regard inquiétant. Il continua à se balancer, ce qui n'arrivait à produire qu'un glissant, les bras en avant et en arrière, le long des accoudoirs du scrocking. Vu que ses courtes jambes ne pouvaient pas atteindre d'aucune façon la terre. Un livre ouvert reposait sur les rondes petites cuisses de M. Pumpington. À ces mots, Hopkins, pareil au romancier même de l'homme invisible, commença à voir clair. Et il se repentit d'avoir laissé aux mains de M. Partington un ouvrage aussi propre à exciter l'imagination. C'était d'ailleurs le seul livre de cette nature qui se trouva dans son bibliothèque. Hopkins, comme tous les scientifiques en général et les médecins en particulier, professait un remarquable dédain pour les Fantaisie de Wells, et il avait acheté jadis l'homme invisible. S'il l'avait acheté, c'était uniquement à cause d'Yipping, parce qu'il est toujours créatif de lire des choses sur l'endroit où l'on habite. L'oncle Barbington remplissait depuis de longues années les fonctions de professeur de chimie à la Technical Society dans le Strand. Jusqu'ici, son neveu n'avait eu le plaisir de le recevoir que pendant les vacances. Cependant, M. Partington était arrivé l'avant-veille, sans autre préambule, alors que les études scolaires battaient leur plein, disant simplement qu'il se trouvait quelque peu fatigué et qu'il lui était été conseillé de prendre 15 jours de repos, sur quoi M. et Mme Hopkins n'avaient pas sollicité de plus amples explications, trop heureux de constater que le cher vieux célibataire, nanti d'une fort belle aisance en vérité, nourrissait à leur égard une sympathie fidèle et rempli de promesses. Les étranges propos qu'il venait d'entendre concernant l'homme invisible firent naître dans l'esprit de Hopkins l'idée que M. Parkington avait quitté le Technical Society poussé par les sollicitations plus pressantes qu'il ne l'avouait. Aussi se promit-il d'exercer à la dérobée sur les faits et gestes du professeur une étroite surveillance. « Ma chérie, dit-il à Mme Hopkins, figurez-vous, ah, j'ai lieu de croire que l'oncle Paul déraille. »« Est-il possible ? » s'inquiéta non sans frayeur Mme Hopkins. « Mais jugez-vous-même. Vous vous rappelez, Mary, l'homme invisible de Wells. Eh bien, l'oncle Paul soutient que ce n'est pas une fable inventée à plaisir. » « Ciel !» s'exclama Mme Hopkins, en joignant les mains et agrandissant les yeux à son tour. « Alors je vous prierai de l'observer, n'est-ce pas, toutes les fois que je serai forcé de m'absenter. Tâchez aussi de le faire parler. Me demande s'il ne serait pas opportun que j'aille à Londres m'entretenir avec le directeur de la Technical Society. Enfin, nous verrons cela dans quelques jours. » Ainsi commença la mise en observation de M. Parkington. Et deux jours passèrent pendant lesquels rien de très caractéristique ne fut consigné. On remarqua seulement que M. Parkington parlait de lui-même beaucoup plus qu'autrefois. Il s'étendait avec complaisance sur ses travaux passés, les traités de chimie qu'il avait publiés, les récompenses et les distinctions qu'il avait obtenues. Et par compensation, lorsqu'il se taisait, on aurait pu dire qu'il se laissait davantage fendre des silences, car ces silences témoignaient d'un labeur intime. Il avait terminé la lecture de l'homme invisible, et aussitôt Mary Hopkins s'était empressée de cacher le livre, et le vieillard ne l'avait réclamé ni ouvertement, ni d'une manière déguisée. Mais cela ne prouvait rien, car il jouissait d'une fameuse mémoire. Et on savait qu'un ouvrage lu par M. Parkington est un ouvrage en quelque sorte incorporé à l'âme de M. Parkington. Durant cette couple de jours, aucune excentricité ne fut donc relevée au compte de l'excellent M. Parkington. Peut-être naguère eût-il demandé pourquoi Mme Hopkins ne laissait plus Bob et Lily se faire un jeu de railler le grand-oncle par sa chaîne de montre ou les pans de sa redingote. Peut-être M. Parkington eût-il mis de significatives extravagances pour que la question de l'homme invisible fût revenue sur le tapis. Mais, disons-le à leur louange, ni Hopkins ni sa femme ne trouvèrent le courage d'y faire allusion et ainsi de provoquer leur oncle à la divagation. Le troisième jour, au matin, le facteur remit une lettre à l'adresse de M. Parkington. Elle venait de Londres, et l'enveloppe portait, imprimée en vert olive dans le coin à gauche, en haut, les mots « Technical Society ». M. Parkington l'a reçue des mains de Mme Hopkins. Il était alors plongé dans une méditation intense, et arpentait sa chambre à grands pas, toute proportion gardée. M. Parkington vit la lettre et se reprit à méditer comme si de rien n'était, après l'avoir froissé, mis en boule et lancé dans la cheminée comme une balle de cricket avec une habileté désinvolte. Il fut dur à Mme Hopkins de se retirer sans mot dire. elle nota dans sa pensée que certaines cheminées avaient recelé certaines boulettes de papier manuscrit. Mais dès le linge, on a pris de M. Perpignan lui-même que la dite boulette signifiait tout simplement un congé définitif, basé sur des prétextes éminemment honorables et accompagné d'une profusion d'éloges et de remerciements. Et en termes propres, M. Perpignan était purement et simplement débarqué de la Technical Society. Hopkins s'est demandé plus d'une fois si M. Perpignan n'avait pas été frappé de ce coup beaucoup plus grièvement qu'il n'y parut, plus grièvement peut-être que l'intéressé ne l'éprouva. Et si cette disgrâce n'eût pas, sur la suite des événements, les plus fâcheuses répercussions. Quoi qu'il en fût, M. Perpignan mangea le fort bon appétit ses œufs au jambon. Tout ceci n'avait aucune espèce d'importance. Il était enchanté, au contraire, de recouvrer la liberté pour se livrer à certains travaux passionnants. Et sans doute convenait-il de remercier la Providence qui abondait si à propos dans le sens de ses vœux. Monsieur et Madame Hopkins eurent l'un pour l'autre à ce moment l'un de ces regards rapides dont l'éclair ressemble à celui d'une fenêtre lointaine qui mire le soleil le temps que l'on ouvre et qu'on la ferme. « Arthur, ajouta M. Perpignan, et vous, Mary, je pense que vous consentiez à me donner l'hospitalité. Oh, j'ai plus rien à faire dans Londres maintenant. Votre cottage est vaste. » Telles sont les circonstances dans lesquelles l'oncle Paul Pat fut amené à devenir citoyen d'Hipking. Sur sa demande, M. et Mme Hopkins l'installèrent au dernier étage de leur maison et un laboratoire fut aménagé pour lui sous les combles. C'est là que M. Perpignan emmagasina bientôt une quantité impressionnante de fioles et de cornues. Hopkins, cependant, avait relu l'homme invisible par une sorte de précaution. Et quand il vit pénétrer chez lui ces bataillons de récipients et d'engins, il ne douta plus que M. Perpignan se fût mis en tête de retrouver le secret chimérique, et il résolut d'y mettre bon ordre s'il était en son pouvoir. Hopkins, jusqu'alors, n'avait jamais fait de la médecine mentale. C'était un médecin de province, bon à tout. M. Perpignan se montrait en somme si raisonnable dans l'habitude de la vie qu'il semblait possible de discuter avec lui et de le convaincre à force d'arguments. Les psychiatres souriront de cela. Mais, je le répète, Hopkins n'était pas familiarisé avec les aberrations de l'esprit. Il espérait que l'oncle, revenu de son erreur, recommencerait à penser comme tout le monde. Et quelques semaines de repos feraient le reste. Et ainsi, le dérangement de M. Perpignan passerait inaperçu, ce qui était singulièrement préférable pour lui et pour l'avenir de Bob et de Lily. Parce que c'est toujours mauvais lorsqu'on peut dire de vous « Ah oui, mais mon grand-oncle, vous savez... » Et l'on se percute le front avec un doigt pour faire comprendre la chose sans prononcer le mot. Pendant que M. Parpington alignait des X, remuait là-haut ses bouteilles étiquetées, Hopkins se mit à travailler son affaire comme un très sérieux problème, sentant bien que le chimiste ne se rendrait qu'à des raisonnements scientifiques. Il passa de longues heures et enfin, satisfait, crut pouvoir aborder victorieusement la discussion. Par bonheur, M. Parkington accepta cette discussion et n'essaya pas, ce qui était à craindre, de nier le but de ses recherches. Voluptueusement environné de nuages d'une cigarette, sirotant avec un sourire d'enfant le petit verre de sherry que Mme Hopkins venait de lui verser, l'oncle Pat s'ouvrit aux différentes questions de Hopkins. « Mais certainement, certainement, il poursuivait la découverte de l'invisibilité. Il était convaincu qu'un traitement approprié pouvait rendre un homme aussi invisible que l'air. La chose se résumait en ceci. Prêter au corps humain le même indice de réfraction que l'atmosphère. Wells, d'ailleurs, l'avait admirablement exposé. Il ne peut donc être question que d'une invisibilité relative à un certain milieu, dit-il. Dans l'eau, par exemple. Griffin, le héros de Wells, Griffin, l'homme invisible dans l'air, serait redevenu tant soit peu visible, comme une grande bulle humaine et gazeuse, puisque l'on n'a pas le même indice de réfraction que l'air. Mais Wells l'a passé sous silence. Ça n'en est pas moins une imperfection. « Que importe ?» fit simplement M. Parpington. « L'eau n'est pas l'élément de l'homme. Pour l'heure, je ne m'occupe que de l'atmosphère. »« D'accord, » procéda Hopkins, qui feignit d'entrer dans les vues de M. Parpington. Mais Wells n'a donné aucune indication sur les moyens de transformer les tissus animaux quant à l'optique. Et je vous avoue que sur ce point, j'aperçois des difficultés qui ressemblent à insurmontables. » C'était cela qu'il avait travaillé assidûment, et il se mit à énumérer toutes les raisons histologiques et physiologiques qui s'opposent à la réalisation du brillant paradoxe. Il perdit sans peine. M. Parkington n'avait qu'une réponse. « Ne vous occupez pas de cela, Arthur. Parpington est quelqu'un, je pense. Et ne suis-je pas Parpington ? Songez seulement que toute invention a été du domaine des mirages avant de passer dans celui de la réalité. Dites, Arthur, il y a 20 ans, on vous aurait annoncé qu'il existait un moyen de voir à l'intérieur des gens. Quelle figure auriez-vous faite ? Eh bien, c'est la même chose avec l'invisibilité. Faites-moi crédit, et vous verrez, oh, vous verrez, que vous ne me verrez plus. Diable, c'est sur vous-même que vous avez l'intention d'opérer ? M. Parkington le confirma dans un joyeux rire. Mais bon oncle, vous n'êtes pas albinos, vous, comme l'était ce Griffin. Les pigments, méprisa M. Parkington. Mais j'en fais mon affaire, moi, des pigments. Oh, je vous assure que ce n'est pas plus compliqué de les décolorer que de décolorer le sang. Qui peut ceci, peut cela? Je ne comprends pas pourquoi Wells a fait une différence entre les deux problèmes. Parbleu, songea Hopkins, pendant qu'il y était, une audace de plus ou de moins. N'empêche qu'il restait court, si bien que M. Barbington, le laissant tout ahuri de son échec, remonta gaiement vers ses calculs et ses tripotages. Hopkins, un instant déconcerté, se rebiffa. Il avait de la logique. Puisque le vieux Pat ne reculait pas devant une impossibilité d'exécution, il fallait passer au possé-outre et lui démontrer que le tour de force étant accompli, un homme étant devenu invisible, l'existence de cet homme, son existence rationnelle, rencontrerait des obstacles infranchissables. Démontrer, facile à dire.